Bonjour, tout le monde va bien? Oula, elle veut prêcher à ma place, la petite, là-bas. J'étais très content. Hier, j'ai eu un coup de téléphone de mon ami retrouvé, Yves Brugère. Et il m'a fait part d'un problème qu'ils ont dans la famille. C'est son frère qui a une fille qui a eu un accident de cheval et qui est grave. Et voilà, je lui ai dit que la communauté et moi-même nous prierons pour cette jeune fille afin qu'elle retrouve toutes ses facultés. Alors ne l'oubliez pas dans la prière, que Dieu la bénisse, amen, et qu'il la rétablisse pour sa plus grande gloire et puis pour la joie de sa famille et d'elle-même, amen. C'est bien. Je vous invite à lire ce matin Matthieu chapitre 5 verset 13. Pour vous qui écoutez tous les messages sur Internet, vous pouvez m'écrire. Il y a déjà beaucoup de gens qui le font, mais faites-le aussi. Mais si vous le faites et que vous voulez, si vous voulez que je vous réponde, il faut absolument impérativement mettre votre véritable adresse Internet parce que là, il y a un homme qui m'a écrit, mais c'est pas la bonne adresse et je n'arrive pas à l'atteindre. Ça me revient toujours. Et je dis ça à cause de lui parce que c'est un homme qui est dans le besoin. C'est un frère c'est un médecin qui lui a donné notre site. Et j'aimerais bien qu'il me contacte de nouveau, qu'il me donne son vrai mail, parce que là, il s'est trompé sûrement, parce que je n'arrive pas à l'atteindre. Voilà, que Dieu vous bénisse. On lit Matthieu chapitre 5, verset 13. C'est vous, c'est Jésus qui parle, hein. Il dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle brille pour que tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière brille ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Une variante dans Matthieu 9 et verset 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres.
Amen.
La plupart des prédicateurs qui prennent ces textes s'en servent pour parler de la mission. Et voilà, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, il faut aller, c'est bien. Et ils ont raison de le faire, mais ce matin, je vais aborder ces textes sous un autre angle. Je voudrais vous parler ce matin de pourquoi les autres nous donnent de la reconnaissance ou nous rejettent. Et c'est assez complexe, c'est pas facile, et je n'ai pas la prétention de faire le tour du sujet, mais je voudrais aborder quelques points là-dessus, afin que nous puissions être, comme Jésus dit, ayant du sel et soyons en paix avec les uns et les autres. On peut rejeter certains de mes actes sans me rejeter moi-même. On peut me reconnaître sans reconnaître tout ce que je suis et l'apprécier. Pourquoi? Sur quoi est fondé le rejet et la reconnaissance d'autrui? Alors, le sel, la lumière, c'est des symboles dans la Bible. Dans la symbolique judéo-chrétienne, le sel représente l'incorruptibilité, ça représente la sagesse, la lumière représente la vérité. Alors, l'image de la lumière dont parle Jésus, il en parle comme quelque chose concernant ta vérité, celle qui brille en toi, pour pouvoir rayonner vers les autres, et être reconnu ou rejeté. Ça, c'est pas ton problème. L'image du sel de la terre, c'est la sagesse qui est la tienne et que les autres reconnaissent, c'est-à-dire ils te donnent de la reconnaissance ou ils te rejettent. Ça peut être aussi ta folie que les gens rejettent ou aiment. Il y a des gens qui aiment bien la folie. Avoir de la sagesse, c'est nécessaire ici-bas pour réussir dans sa vie, c'est clair. Bon, ben, on pourrait dire, mais alors, réussir sa vie, c'est quoi? Alors voilà, nous voilà partis dans un autre sujet. Qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Oui, la sagesse, ce n'est pas la même pour tout le monde. C'est pourquoi je dis la lumière dont Jésus parle, c'est ta lumière. La sagesse dont Jésus parle, c'est ta sagesse. La sagesse, d'abord, tout dépend de comment elle est perçue, ta sagesse. Et puis aussi, ta sagesse, elle va évoluer avec le temps. Par exemple, prenons quelqu'un que je connais bien, moi. J'ai toujours été très heureux de ce que j'avais. Mais, ah bon, il y a un mais, bien sûr. Ma lumière, c'est-à-dire ma vérité, c'est que je suis plus heureux aujourd'hui que je ne l'étais il y a 2 ans, mais j'espère aller en progressant, sinon je serai plus heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ma personnalité. C'est pas que je suis mécontent de ce que je suis ou de ce que j'ai, mais je travaille à être mieux et à avoir plus. Et ça, c'est ma vérité. Mais c'est pas celle de tout le monde. Moi, j'ai tendance à penser que c'est normal, quoi. C'est comme ça pour tout le monde. Mais pas du tout. Vous avez des gens qui sont mécontents de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont réellement, alors ils travaillent à être et à avoir mieux. Mais c'est parce qu'ils sont mécontents. Moi, c'est pas ça. Et ça change beaucoup de choses. La Bible dit que la piété, c'est une source de gain avec le contentement. C'est formidable, avec le contentement. C'est-à-dire, on sait bien vivre dans tous les domaines, partout, n'importe où. On sait, c'est bon. C'est leur vérité. Elle est incritiquable. C'est leur lumière. C'est ce qu'ils rayonnent. Et toujours, par exemple, en prenant le même exemple, moi, je peux les aimer, eux, les reconnaître, reconnaître leur valeur, mais tout en n'étant pas d'accord avec leur démarche, ni avec leur motivation. Beaucoup de gens coupent les relations, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la démarche et les motivations. Parce que leur lumière, ce qu'ils projettent, ça ne me convient pas, alors je rejette. Non, pas forcément. Simplement, je ne voudrais pas être dans leur peau, c'est ça le problème. On juge toujours les autres d'après soi-même. Non. Et alors on dit, c'est pas possible, parce qu'on a une telle idée de nous-mêmes. La lumière, c'est notre personnalité, notre vie intérieure. Voilà la lumière. Alors, on l'a d'abord pour nous-mêmes, et ensuite pour briller dans ce monde, pour briller, pour rayonner sur les autres. Rayonner vers les autres, c'est quoi? C'est oser être soi-même, c'est se manifester avec courage, manifester notre différence, affirmer notre identité, nous donner, nous livrer, même des fois en pâture, par amour. C'est vivre en vérité, c'est manifester, c'est projeter, c'est exprimer notre sagesse, la sagesse sans la lumière. C'est vivre dans la vérité de ce que nous sommes, de notre sagesse, de ce que nous voulons. C'est vivre dans la vérité de nos valeurs, et pas seulement intérieures, mais l'exprimer. Et les disciples de Jésus, frères et sœurs, ils brillent autrement que les gens de ce monde. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas nous incliner devant les manipulations des autres. Parce que nous refusons de courber l'échine devant l'ambiance générale qui règne dans ce monde. Nous ne voulons pas, est-ce que nous pouvons toujours? C'est à ça qu'on doit veiller. Parce que nous croyons dans l'amour inconditionnel, alors nous avons une manière différente, n'est-ce pas, de briller. Parce que nous croyons dans l'amour inconditionnel, parce que nous croyons à la valeur du don de soi, et... je crois dans la valeur du don de moi. Ça veut dire que j'ai une sacrée image de moi. Est-ce que c'est de l'orgueil? Ça dépend comment vous le percevez. Ce qui est important, c'est que moi, je sois en accord avec moi et en accord avec celui qui m'a créé, peu importe ce que les gens pensent. Nous avons des valeurs supérieures. D'abord, le monde le reconnaît, on a perdu nos points de repère, le monde a perdu ses points de repère, pas nous. Et ça nous permet justement de briller différemment. Alors il faut avoir du courage, mes frères et sœurs. Si vous avez du courage, alors votre lumière va, votre personnalité en Jésus-Christ, votre nouvelle personnalité en Jésus-Christ sera une force quand elle va rayonner vers les autres, une force d'amour, une force qui va se manifester, qui va éclairer les autres, qui va bénir les autres, qui va conduire les autres, qui va réchauffer leur cœur. Elle sera reconnue, elle sera prise, reconnue avec joie, acceptée, et surtout la rejeteront. On le sait. C'est pourquoi je dis qu'il faut du courage, parce qu'on n'aime pas tellement être rejeté. Dans ce monde, tout le monde n'aime pas l'amour. Et ça leur fait drôle quand ils en voient. Voyez, qu'est-ce que c'est la sagesse? Qu'est-ce que c'est la vérité? Question que Pilate a posée. Comment être soi-même? Alors, un chrétien évangélique vous dira la vérité, c'est Jésus. C'est absolument vrai. Seulement, comme je disais, c'est pas la réponse, c'est le titre de la réponse, dire ça. La vérité, c'est Jésus. On va voir un petit peu plus loin. Dans l'ancienne alliance, nous avons une loi morale. C'est l'ensemble de nos devoirs. Ça, cette morale, c'est universel. C'est pas seulement dans les 10 commandements, c'est universel. Cette loi morale nous conduit vers la vertu, et puis certains même arrivent à la sainteté en observant ces choses-là. Mais il n'y a pas que la morale, il y a aussi l'éthique. Et d'après moi, l'éthique, eh bien, c'est autre chose encore. C'est la réponse à comment vivre. Comment vivre pour être heureux et sage, c'est-à-dire comment vivre pour être heureux en rendant les autres heureux. Parce que on peut vivre heureux en rendant les autres malheureux. Et ça, c'est pas éthique. Mais pas éthique du tout, tic, 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 non, non, non. Pas tic, pas, c'est comment on dit, pas glope. La morale et l'éthique, à mon avis, c'est pas tout à fait pareil. Avec la morale, ça peut être très dur, ça peut être imposé aux autres, ça peut être, c'est notre dureté qui se manifeste. Voyez l'éclairage qu'on donne. Avec l'éthique, c'est l'amour sur le chemin. Je dis bien le chemin et non pas les rails de la loi. Parce que certains prennent la loi comme c'est des rails, on n'en sort pas. Si on en sort, on déraille. Et sur un chemin, vous pouvez marcher de temps en temps à gauche, de temps en temps à droite, dans ton milieu, vous êtes toujours sur le chemin. On esquive, n'est-ce pas, certaines contrariétés, on laisse couler, un frère qui est un peu mal en point en ce moment, on le laisse passer, voilà, puis après on revient doucement. Puis... Sur des rails, c'est pas difficile de se retourner et puis de faire du slalom. D'accord? Donc je dis l'éthique, c'est l'amour sur le chemin de la loi. La sagesse, ça nous permet de rayonner, c'est-à-dire de faire briller notre lumière, sans éblouir, sans brûler, sans effrayer les autres. La sagesse, c'est le sel de la terre. Le sel de la terre. Alors Jésus dit, le sel, si le sel perd sa saveur, je me suis renseigné, ça fait longtemps, ça m'énervait cette phrase. Ça ne peut pas perdre sa saveur. C'est impossible. Le sel ne peut pas perdre sa saveur. Je me suis renseigné, c'est chimiquement impossible. Alors qu'est-ce que Jésus a voulu dire? S'est-il trompé? Perdre sa saveur. On va dans Online Bible et on clique sur le mot, sur la phrase en question, et on s'aperçoit que le grec dit morainem. Ça veut dire devenir fou, agir follement. Si le sel devient fou, c'est pas perdre sa saveur, c'est si le sel devient fou, si le sel agit follement. Pourquoi est-ce qu'il continue à traduire bêtement comme ça? C'est incroyable. C'est les théologiens, qu'est-ce que vous voulez faire? Que Dieu les bénisse. Toujours est-il que Jésus fait ici mention d'une phrase qu'on trouve dans l'Ancien Testament, dans Nombre 18-19, mais pas dans la version seconde. Second, il dit, c'est une alliance inviolable. Et Chouraki dit, c'est en face d'Adonai un pacte de sel en pérennité. Un pacte de sel. Le sel, c'est le symbole de la sagesse incorruptible, de l'incorruptibilité. Les alliances autrefois qui étaient faites entre les hommes et les femmes, par exemple, ils voulaient acheter un terrain ou n'importe quoi, ou ils faisaient une alliance entre rois ou ce que vous voulez, c'était toujours fait pendant un repas et il fallait qu'il y ait du sel sur la table. Et les offrandes qu'on faisait à Dieu, qui représentaient l'alliance, n'est-ce pas, pour le pardon, il fallait toujours que ça soit salé. Et ça montrait l'incorruptibilité du pacte qui était fait, de l'alliance qui était faite. Quand Jésus a fait alliance, il nous a montré le symbole de l'alliance au jour de la Pâque, il nous a donné la Sainte Cène, mais c'était le jour de la Pâque, sur cette table il n'y avait pas que du pain et du vin, sur cette table il y avait beaucoup d'autres choses, et il y a d'ailleurs toujours les mêmes choses aujourd'hui, un plateau sur lequel se trouvent trois galettes de pain non levées qui représentent les trois catégories de personnes composant le peuple juif, les Cohen, les Lévi et Israël. Il y avait un os grillé qui représentait, qui était le symbole du sacrifice pascal. Il y avait un œuf dur, un œuf, on parle toujours de l'œuf, la vie, n'est-ce pas. L'œuf, il était mangé par le premier-né de la famille en souvenir du premier-né des Égyptiens qui étaient morts. Eux, ils mangeaient la vie, par contre. Il y avait des herbes amères qui symbolisent l'amertume de l'esclavage. Il y avait une pâte de fruits qui symbolisait le mortier dont ils se servaient pour faire leur construction là-bas en Égypte. Et il y avait du persil. Oui, mon petit chéri. Lucas, mon petit-fils, il déteste le persil. Ah ouais, il y a un problème. Ou du céleri, c'est comme il voulait. Et ça, c'était pour montrer que le premier sorte de repas humain, c'est-à-dire c'était les premières sortes de repas humains, c'était des repas végétaux. Et il y avait une espèce de radis poivré qu'on appelle du réforme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, du réforme. T'en as mangé? Bien sûr, évidemment. Et puis ça, c'est un condiment qui s'ajoutait aux herbes. Voilà ce qu'il y avait sur ce fameux plateau. Et en dehors du plateau, il y avait une coupe d'eau salée. Voilà, le sel était là. Dans lequel on pouvait tremper donc les herbes amères. Le sel était présent au repas de l'alliance dans le sang de Jésus. Pacte inviolable, salé. Le sel, symbole de sagesse incorruptible, nous devons être salés. Et c'est ce que nous sommes, nous avons été salés, en Christ ayant sa pensée, en Christ ayant son esprit, sa vie en nous. Mais si ce sel devient fou, ça veut dire si on rompt cette alliance, ça veut dire si la communauté devient folle, si ceux qui ont fait un pacte deviennent fous, qui remplira la mission de rayonner, d'éclairer, d'inspirer, de donner la saveur aux autres, d'empêcher la putréfaction, parce que le sel aussi, il empêche la putréfaction. Si le sel devient fou, Jésus dit, il est rejeté, il n'est plus bon à rien. Dans Ésaïe 42, verset 6, toujours dans Chouraki, pas dans Second, dans Chouraki, il est écrit, « Je te donne pour pacte peuple » pour lumière des nations. C'est-à-dire que l'Israël, c'est un pacte peuple, lumière pour les nations. Eh bien, c'est ce que nous sommes, nous aussi, en tant que peuple de Dieu, chrétien, nous sommes un pacte salé. Il n'y a pas de pacte sans sel. C'est-à-dire, c'est l'incorruptibilité, c'est notre sagesse. Et Jésus de dire, ne vous comportez pas comme des vierges folles, c'est-à-dire comme du sel qui aurait perdu sa saveur, comme du sel fou, comme du sel qui se laisse corrompre, comme du sel fou ayant perdu votre incorruptibilité. Votre incorruptibilité, frères et sœurs, vous allez me dire, mais moi je ne suis pas... Si tu es incorruptible parce que tu es en Jésus, si tu sors de là, Jésus t'a rendu pur. Tu n'es pas pur par toi-même. Personne n'est pur par lui-même. L'alliance faite avec nous nous garantit cette pureté. Elle vient de Jésus. À nous de la garder. Nous sommes comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Nous avons à garder, à protéger ça. Alors, ne perdez pas follement, bêtement, pour un plat de lentilles. Ça veut dire pour quelque chose qui ne vaut pas cher. J'aime bien les lentilles, mais enfin bon. Le sel qui devient fou, mais comment est-ce que c'est possible? Paul dira que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. Alors, n'ayons pas honte de la folie de Dieu. C'est ainsi qu'on ne perdra pas notre saveur. Parce que la folie de Dieu, elle est sagesse. N'ayez pas peur de la folie de l'amour. N'ayez pas peur de la folie de la foi, parce que ça, c'est la sagesse. Salomon, il demandait la sagesse à Dieu, le sel, l'incorruptibilité. Alors Dieu lui a donné tout ça, mais en plus, il lui a donné la richesse, il lui a donné longue vie. Alors, quand on est... Moi, j'étais gamin, puis à l'école, en Suisse, on étudiait ça. Et puis, je disais, oh, c'est formidable, Dieu lui a donné la sagesse, et puis tout d'un coup, son compte en banque était rempli de sous. Ça s'est passé comme ça, c'est génial, c'est formidable. Mais Salomon ne parle pas comme ça, il dit dans le Siracide, c'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée, j'ai invoqué et l'Esprit du Seigneur m'est venu. Avec la sagesse me sont venus tous les biens. C'est-à-dire étant sage, vous comprenez? Étant sage. Et par ses mains, une incalculable richesse, car elle est pour les hommes un trésor inépuisable. Quand on est sage, on ne fait pas des âneries, puis on prospère. On ne perd pas son temps à faire des machins bibi, des petits trucs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Demande la sagesse si tu en manques. Et Dieu te la donnera sans faire de reproches. Il peut te donner la sagesse. Il ne te donnera pas les sous. Il te donnera la sagesse pour avoir les sous. Il ne donnera pas la santé comme ça. Il donnera la sagesse pour l'avoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades parce qu'ils font des excès de ceci, des excès de cela. Par manque de sagesse. Seigneur, guéris-moi. Non. Sois sage. Va te coucher plus tôt. Des choses comme ça. Vous comprenez? Surtout à nos âges avancés. Hein? Mets un chapeau sur ta tête maintenant que tu es chauve. L'hiver. Très beau ton chapeau, Philippe. Qu'est-ce que ça veut dire? Demande la sagesse si tu en manques et Dieu te la donnera sans faire de reproche. Tu peux alors anticiper l'avenir avec la sagesse de Dieu. Tu peux anticiper l'avenir, trouver des moyens pour mieux communiquer avec les autres. Quand tu communiques mieux avec les autres, quand tu rayonnes mieux, non seulement tu les éclaires pour eux-mêmes, mais tu les vois mieux, tu les discernes mieux, tu peux mieux comprendre, tu peux mieux prendre. Dans le mot comprendre, il y a le mot prendre, tu peux mieux prendre ce qu'il y a à prendre. On a tous à donner, mais on a tous à prendre. Si tu fais que donner, que tu prends rien, c'est soit parce que tu es orgueilleux, soit parce que tu ne vois pas ce qu'il y a à prendre. C'est dommage, on a tous quelque chose à partager. Vous avez quelque chose à me donner, j'ai quelque chose à vous donner. Et s'il n'y a pas ce partage, c'est que la lumière, quelque part, s'est court-circuitée. C'est bien dommage. Résoudre avec la sagesse les problèmes complexes, avec la sagesse, interpréter les signes des temps. Il y a des moments où c'est bien de vendre, il y a des moments où c'est bien d'acheter. Les signes des temps, ce n'est pas seulement les Palestiniens, Israël, les Illuminati, tous ces machins. Hein. Beaucoup de chrétiens s'occupent de ça, et puis dans leurs affaires, c'est zéro plus moins zéro. Tu seras capable de t'orienter dans le changement. L'imbécilité, c'est justement le contraire. C'est de ne pas être capable de s'orienter dans le changement. C'est d'être désorienté dans le changement, de perdre pied parce que quelque chose a changé. C'est de définir des nouvelles stratégies. Avec la sagesse, tu peux réussir ce que tu entreprends. La sagesse, c'est un don de Dieu, mes frères et sœurs, qui nous permet de vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Et quoi? La sagesse, ça provient de l'amour. C'est un don de Dieu. Dieu est amour. La sagesse provient de l'amour. La sagesse, ce n'est pas la malignité. Ce n'est pas être malin. Ce n'est pas, comment dire, avoir le nez et puis farfouiner dans les bons trucs là où c'est bien. Non, ça, ce n'est pas la sagesse. Raisonnons à partir de l'amour, comme l'entend Jésus. Si ton sel devient fou, ça signifie si tu perds ta sagesse, source de paix, source de discernement, source de contentement et de succès, eh bien tu perds ta réussite parce que tu manques le but, et manquer le but, c'est péché. Le mot péché signifie manquer le but. Pas plus compliqué que ça. Péché. On entend des gens qui disent « Ah, je suis converti, je ne fume plus. » Non. Mais rater sa vie... de famille, rater sa vie dans le travail, rater sa vie, c'est péché. Parce qu'on a manqué avec le sel, on a manqué avec la lumière. On n'a pas été le sel, on n'a pas été la lumière, on n'a pas obéi à Jésus. On n'a pas pris en considération que ça, nous l'avons. Et le méprisant, c'est devenu quelque chose qui a perdu sa saveur, c'est quelque chose qui s'est corrompu. quand ça n'est pas utilisé, quand ce n'est pas donné, ce n'est pas renouvelé. Alors Jésus nous parle d'être le sel de la terre et aussi d'être la lumière du monde. C'est briller, être la lumière du monde. C'est briller non pas pour soi-même, mais pour les autres. Un peu pour soi-même, mais surtout pour les autres. D'ailleurs, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 12, Jean 8, 12. Puis après, il dit, « Vous êtes la lumière du monde. » Alors ça veut dire quoi? Jésus vous invite à devenir comme lui la lumière. C'est-à-dire que le verset de Jean 8, 12, maintenant vous pouvez vous l'attribuer et dire, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » C'est magnifique, mais quelle responsabilité. Être conforme à ce qu'il dit, conforme à ce qu'il veut. Vous voyez que Jésus vise très haut pour nous. Et s'il nous dit que c'est possible, c'est que c'est possible. Arrête de dire que ce n'est pas possible. S'il dit que c'est possible, c'est que c'est possible. Simplement, ce qu'il faut, c'est que tu ailles sur tes genoux et dis, Seigneur, c'est ta sagesse dont j'ai besoin. Je veux ta sagesse à toi. Que cette année soit placée là-dessous. Je veux ta sagesse. Si vous avez la sagesse, vous avez tout le reste avec. Et Jésus affirmait la lumière qui était en lui. T'es pas modeste avec ça. Affirmez la lumière intérieure de votre identité morale, nouvelle, avec votre éthique et toutes ces choses-là. Affirmez, s'affirmer soi-même. Alors dans le monde, on veut affirmer son moi. Mais moi, je veux pas affirmer mon moi. Parce que moi, je suis mort, je vais affirmer Christ qui est en moi, ma nouvelle identité en Jésus-Christ, avec l'enseignement qu'il m'a donné, qui est une véritable nourriture pour mon nouveau moi. C'est ça, la vie chrétienne. La lumière qui est en vous, elle vient de Dieu. Elle doit être une lampe sur la route des autres pour leur montrer la sagesse qui est en vous. Jésus ne disait pas, « Écoutez, je suis la lumière. » Vous me suivez, je vous mets dans un endroit où vous allez pouvoir comprendre des tas de trucs. Non, c'était lui qui éclairait, c'était lui qui donnait la sagesse, c'était lui qui donnait l'enseignement, c'était lui qui faisait tous les miracles, tout. C'était concentré là. Et ce qu'il était, nous le sommes. Maintenant, il faut prendre conscience et il faut le manifester, il faut rayonner. Quand Jésus dit là, la vérité nous rend libre, ça signifie la vérité nous permet d'oser aimer. La vérité nous permet d'oser pardonner, d'oser donner, d'oser exposer notre personnalité nouvelle, oser montrer qui vous êtes. La vérité, la parole de Dieu, la Bible, quand on la connaît, on s'aperçoit qu'on peut oser. Quand je vous disais l'autre jour, osez, prenez le risque de mettre Dieu à l'épreuve et quand vous arrivez quelque part, ne cherchez pas la première place, ne cherchez pas à être vu. Vous verrez, c'est Dieu qui va diriger les choses et vous allez avoir la première place. C'est osez faire ça, osez prendre Jésus au sérieux, osez aimer les autres, osez. La vérité de l'amour nous rend libre de la peur de ne pas réussir, de rater tout parce qu'on n'a pas été malin. Non, osez faire confiance à Dieu, faisant les choses comme Jésus dit de les faire. Nous libérer de la peur de nous-mêmes, nous libérer de la peur des autres, de l'avenir ou du passé qui pourrait ressurgir. Ne nous affadissons pas, mes frères et sœurs. Ne devenons pas insipides à cause de la peur. Et pourquoi est-ce qu'on le ferait? Pour plaire au monde. Pour plaire au monde. Pour faire comme lui, pour être comme lui. Ne nous affadissons pas, ne renions pas nos valeurs, notre personnalité nouvelle. Affirmons-la. Ne dissimulons pas ça au monde. N'enfouissons pas notre talent, notre personnalité, notre don. Montrons-le le plus possible, partout, comme des fous. Les gens, certains vont dire que vous êtes fous, vous êtes orgueilleux et tout, mais la folie de Dieu, c'est sa sagesse. N'ayons pas peur du jugement des autres, parce que ce qui empêche les gens de s'affirmer, c'est la peur d'être mal considéré. Mais nous, on s'en fout. Ça fait, oui, bien sûr, quand on est mal considéré, ça fait, sur le moment, c'est pas... Même Jésus, je suis sûr, il était contrarié. C'est la peur d'être mal considéré. La peur que les autres voient notre différence. La peur que les autres n'apprécient pas notre singularité. Ne croyez pas qu'en étant comme tout le monde, vous serez tranquille et heureux. Si en étant comme tout le monde, on était tranquille et heureux, tout le monde serait tranquille et heureux. Profitez du fait d'être vous et manifestez ce que vous êtes. N'attendez pas qu'on vous demande, qu'on vous dise, qu'on vous ordonne de faire les choses. Soyez vous-même, faites-les, prenez l'initiative. Remplissez votre rôle avec la sagesse que vous avez reçue et que vous avez cultivée. Votre sagesse n'est pas la mienne. Remplissez votre rôle en rayonnant avec vos talents, votre personnalité, que ça n'est pas la mienne. Et même si j'admets ce que vous êtes et ce que vous faites, sauf certains trucs, mais c'est incritiquable. C'est pourquoi Jésus dit « juge pas ». Sel et lumière, goût et énergie, tout ça c'est un bon mélange qui, une fois livré entre les mains de Dieu, peut accomplir des miracles. C'est à ça qu'on est appelé, mes frères et sœurs. Dites-moi, comment les gens perçoivent-ils Jésus aujourd'hui? Allez vers les gens, vous leur demandez. Jésus un jour a dit, qui dit-on que je suis? Allez vers les gens, demandez, qui dites-vous qu'il est? La plupart disent, oh, c'est un homme extraordinaire, très sage, avec de l'amour, il était incorruptible, il faisait des miracles et tout. Eh bien, ce qu'ils vont vous dire sur Jésus, ils devraient pouvoir le dire sur vous. Vous voyez qu'il y a du chemin. Mais ce que Jésus est, nous le sommes, c'est ce que la Bible dit. Mais c'est à nous de rayonner, de le manifester, de ne pas garder ça en nous, mais de le manifester. Toujours j'écoutais un disque, c'était Higelin qui chante Charles Trenet. Bon, Higelin, c'est un blasphémateur, c'est tout ce que vous voulez, mais il a une belle voix, et puis j'écoutais ça, et à un moment donné, il chante une chanson, c'est le débit de l'eau, le débit de lait. Vous ne connaissez pas cette chanson? Ah, qu'il est beau, le débit de l'eau. Ah, qu'il est laid, le débit de lait. C'est ce qui a inspiré la chanson à l'autre, que le lavabo et le bidet. Et puis, il essaye de faire chanter ça aux gens. Puis les gens sont là, ah, qu'il est beau, le débit de l'eau. Et tout d'un coup, il l'incline. Éclatez-vous! Faites sortir! Il faut faire sortir ça. On avec assis comme ça, et puis avec notre Bible, et puis à genoux, prière, coquillée, avec le plexus solaire complètement coincé entre notre bedaine et puis nos poumons. Puis après, on est là dans le monde. Mais, libérez-vous, éclatez-vous, sortez tout ça de vous, manifestez-le, vous allez voir, ça marche! Mais il faut le faire. C'est pas ma personnalité. Change alors. Parce que Jésus dit, tu es la lumière du monde, tu es le sel de la terre, tu ne dois pas perdre ta saveur, et cette lumière, on doit la voir. On doit la voir. On s'en fout de cette personnalité. Ce n'est pas la vraie personnalité de Jésus qui est en toi. C'est ta vieille personnalité qui est en toi, qui ne veut pas que ça se manifeste. Elle doit crever, cette vieille personnalité-là. Et puis, si elle ne veut pas, tu n'as qu'à la faire crever toi-même. Il faut que la vraie personnalité, celle qui est de Jésus en toi, il faut qu'elle explose, il faut qu'elle sorte, il faut que ça se manifeste. Amen. N'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de donner, de pardonner, donnant une part de vous-même. Amen. Merci Jésus de nous aider à faire ces choses. Merci Seigneur de nous conduire sur ce chemin où nous pouvons marcher de temps en temps un peu à droite, de temps en temps un peu à gauche, de temps en temps un peu au milieu, où nous pouvons nous asseoir sur une borne pour nous reposer, recontinuer encore, prendre la main de quelqu'un qui a de la peine à marcher ou prendre la main de quelqu'un qui nous aide à marcher. Merci Seigneur d'être sur ce chemin. Nous avons quand même une marche de possibilités. Nous ne sommes pas sur des rails fermes. Merci Seigneur Jésus de nous aimer comme cela et de nous permettre de continuer sur ce chemin jusqu'à ce que nous voyons finalement ton visage et que nous puissions rentrer pleinement en communion avec toi. Merci Jésus. Amen.